Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomé. Chapitre 19. La jolie petite tête de Dolly Varden était encore éperdue des divers souvenirs de la soirée et ses yeux brillants étaient encore éblouis d'une foule d'images qui dansaient devant eux comme des atomes dans les rayons du soleil. Parmi ces images figurait spécialement l'effigie d'un de ses partenaires, jeune carrossier avec brevet de maître, lequel lui avait donné à entendre, en lui offrant la main pour la conduire à sa chaise au moment du départ, que son idée fixe et sa résolution irrévocable étaient de négliger désormais ses affaires et de mourir lentement d'amour pour elle. La tête de Dolly et ses yeux, disons-nous, et ses pensées et tous ses sens se trouvaient donc dans un état d'agitation désordonnée que la soirée justifiait bien, quoiqu'il eût déjà 3 jours de date, lorsque, au moment où, assise à table, au déjeuner et fort distraite, elle lisait sa bonne aventure, c'est-à-dire de beaux mariages et de splendides fortunes dans le résidu de sa tasse à thé, on entendit un pas dans la boutique. On aperçut en même temps, par la porte vitrée, M. Edward Chester, debout au milieu des serrures et des clés pleines de rouille, tel que l'amour au milieu des roses, comparaison d'une justesse dont l'historien ne peut nullement se faire honneur, attendu que l'invention appartient à un autre, à la chaste et modeste Miggs, qui, voyant le jeune homme du seuil de la porte où elle était alors à nettoyer, se sentit en veine de sentiments et se permit dans la foi intérieure de son âme virginale cette similitude poétique. Le serrurier, les yeux au plafond et la tête en arrière, était justement, en ce moment, dans le feu de ses communications intimes avec Toby, et il n'aperçut pas, pour sa part, la personne qui lui faisait visite jusqu'à ce que Madame Varden, plus vigilante que les autres, eût prié Sim Tappertit d'ouvrir la porte vitrée et de faire entrer le gentleman. Et notez que la bonne dame ne fut pas fâchée de trouver son mari en faute pour lui faire une bonne morale à propos de rien, sauf que, par exemple, prendre le matin une gorgée de petite bière, c'était une coutume pernicieuse, irreligieuse et païenne, dont les délices devaient être laissés à des pourceaux, à Satan, ou du moins aux sectateurs du pape, et faire horreur au juste comme une œuvre de crime et de péché. Elle allait sans aucun doute pousser son admonition beaucoup plus loin. Elle eut rattaché une longue liste de préceptes d'une valeur inestimable si le jeune gentleman, dont l'attitude était quelque peu gênée et décontenancée pendant qu'elle sermonnait son mari, ne l'eût engagé à conclure prématurément. « Vous m'excuserez, monsieur, j'en suis bien sûr, » dit Madame Varden en se levant et lui faisant des révérences. « Varden est si irréfléchi et il a tellement besoin qu'on lui rappelle. Sim, apportez une chaise. » Monsieur Tappertit obéit avec un geste plein d'une noble fierté qui semblait dire qu'il ne voulait pas la refuser, mais qu'il protestait contre cet attentat à sa dignité. « Vous pouvez vous en aller, Sim, » dit le serrurier. Monsieur Tappertit obéit encore, mais toujours sous réserve de protestation, et en retournant à l'atelier, il commença sérieusement à craindre qu'il ne fût obligé d'en venir à empoisonner son maître avant la fin de son apprentissage. Pendant ce temps, Edward répondit aux révérences de Madame Varden par les compliments les mieux appropriés. Cette dame en était toute rayonnante. Aussi, quand il accepta une tasse de thé, des belles mains de Dolly, la mère fut on ne peut plus agréable. « Assurément, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, Varden ou moi, ou bien Dolly elle-même pour vous obliger, monsieur, n'importe quand, vous n'avez qu'à le dire et ce sera fait, » dit Madame Varden. « Je vous suis fort obligé, assurément, » répliqua Edward. « Vous m'encouragerez à vous dire que je suis justement venu ici pour vous demander vos bons offices. »
Madame Varden fut enchantée, outre mesure.
« Il m'est venu à l'esprit que probablement votre charmante fille irait à la Garenne, soit aujourd'hui, soit demain, » dit Edward en regardant Dolly. « S'il en est ainsi et que vous consentiez à ce qu'elle se charge de cette lettre, vous obligerez, madame, plus que je ne saurais vous le dire. » La vérité est que malgré le plus vif désir que ma lettre arrive à sa destination, j'ai des raisons particulières pour ne pas la confier à tout autre moyen de transport, tout ce qui fait que sans votre aide, je serais dans un extrême embarras. Elle ne devait pas aller de ce côté-là, monsieur, ni aujourd'hui, ni demain, ni en vérité de toute la semaine prochaine, répliqua gracieusement la dame, mais nous serons heureux de nous déranger pour vous, si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez compter qu'elle ira aujourd'hui. « Vous supposeriez peut-être, » ajouta Madame Varden, et elle regardait son époux en fronçant le sourcil, « à voir Varden assis là, sombre et taciturne, qu'il a quelque objection à cet arrangement, mais n'y faites pas attention, s'il vous plaît, c'est son habitude à la maison, car au dehors, il est assez gai et assez causeur. » Or, le fait est que l'infortuné serrurier, bénissant son étoile de ce qu'il trouvait sa compagne de si bonne humeur, était resté assis avec une radieuse figure et prenant un plaisir infini à l'entendre dégoiser si bien. Cette soudaine attaque le prit donc tout à fait au dépourvu. « Ma chère Marthe, dit-il. « Eh oui, bien sûr, interrompit Madame Varden avec un sourire où le dédain se mêlait à l'enjouement. « Très cher, nous savons tout cela. » « Mais ma chère âme, vous êtes entièrement dans l'erreur, vous vous méprenez en vérité. J'étais ravi de vous voir si bonne, si prompte à obliger. J'attendais, ma chère, avec anxiété, je vous le jure, ce que vous alliez dire. »« Vous attendiez avec anxiété, » répéta Madame Varden. « Oui, vraiment, je vous remercie, Varden. Vous attendiez, comme vous faites toujours, que je puisse m'exposer à quelques reproches de votre part, si vous trouviez matière à m'en faire, mais je suis accoutumée à cela. » dit la dame avec un rire sous cap d'un genre solennel, et c'est ce qui me console. « Je vous donne ma parole, Marthe, » dit Gabriel. « Laissez-moi vous donner ma parole, mon cher, » dit en l'interrompant sa femme avec un sourire charitable, « que lorsqu'il y a de semblables discussions entre gens mariés, le mieux est d'y couper court. Nous mettrons donc ce sujet de côté, s'il vous plaît, Varden. Je ne désire pas le poursuivre. J'aurai beaucoup à dire, mais je préfère ne dire rien. Je vous prie de ne pas m'en parler davantage. »
« Je ne demande pas à en parler davantage, » répliqua le serrurier piqué.
« Eh bien donc, en voilà assez, » dit Madame Varden. « Seulement, ce n'est pas moi qui ai commencé, » ajouta le serrurier avec bonne humeur. « Vous devez le reconnaître. » « Vous n'avez pas commencé, Varden ?» s'écria sa femme en ouvrant de grands yeux et regardant la compagnie à la ronde comme si elle disait « Vous entendez cet homme ? Vous n'avez pas commencé, Varden ? Mais vous ne direz pas que je fusse de mauvaise humeur. Non, vous n'avez pas commencé. Oh mon Dieu ! Non, non, ce n'est pas vous, mon cher !»«
Bien, bien, » dit le serrurier, « voilà donc une affaire réglée. »
« Oui, oui, » répliqua sa femme, « tout à fait. Et s'il vous convient de dire que c'est Dolly qui a commencé, mon cher, je ne vous contredirai pas. Je connais mon devoir. J'ai besoin de le connaître, bien sûr. Je suis souvent contrainte de me le représenter à l'esprit quand j'aurai envie de l'oublier un moment. Je vous remercie, Varden. » Et en parlant de la sorte, avec une puissante démonstration d'humilité et de clémence, elle croisa ses mains et regarda encore à la ronde. Et son sourire disait clairement « Si vous voulez voir celle qui mérite le premier rang parmi les femmes martyres, elle est ici sous vos yeux, contemplez-la. » Ce petit incident, quoique bien propre à faire ressortir la douceur et l'amabilité extraordinaire de Madame Varden, était de nature à gêner la conversation et à déconcerter tout le monde, sauf cette excellente dame, aussi n'y eut-il que quelques monosyllabes échangés jusqu'à ce qu'Édouard se retirât. Ce qu'il fit bientôt, en remerciant un grand nombre de fois la maîtresse de la maison de sa condescendance et en chuchotant à l'oreille de Dolly qu'il viendrait voir le lendemain s'il n'y avait pas par hasard réponse à son billet. Dolly, véritablement, n'avait pas besoin qu'elle lui dît pour le savoir, car Barnabé, avec son ami Grip, s'était glissé chez elle la veille au soir pour la préparer à la visite qu'elle recevait en ce moment. Gabriel accompagna Édouard à la porte de la rue et revint les mains dans ses poches, puis, après avoir tourné dans la salle, inquiet et mal à son aise, après avoir lancé beaucoup de coups d'œil obliques vers Madame Varden, qui, avec la plus calme des physionomies, était plongée à 5 brasses de profondeur dans le manuel protestant, il interpella Dolly et lui demanda comment elle comptait aller à la Garenne. Dolly répondit que, selon sa supposition, elle s'y rendrait par la diligence et regarda Madame sa mère, qui, voyant qu'on lui faisait un appel silencieux, plongea dans le manuel et perdit conscience de toute chose terrestre.
« Marthe, » dit le serrurier,
« je vous entends, Varden, » dit sa femme, sans remonter à la surface.
« Je suis fâché, ma chère amie, que vous ayez des préventions contre l'arbre de mai et le vieux John. Car sans cela, comme la matinée est très belle et que le samedi n'est pas pour nous un jour de besogne, nous aurions pu aller tous les trois à Chigouel et passer une journée tout à fait agréable. »
Madame Varden ferma immédiatement le manuel et, fondant en larmes, demanda qu'on la conduisît en haut.
« Eh bien, qu'avez-vous donc, Marthe ? » dit le serrurier. À quoi Marthe répliqua « Oh, ne me parlez pas !» et protesta dans une espèce d'agonie que si on lui avait dit cela, elle n'aurait pas voulu croire que ce fût possible. « Mais Marthe, dit Gabriel, en se plaçant sur son passage, comme elle se mettait en route pour sa chambre avec l'aide de l'épaule de Dolly, qu'est-ce que vous n'auriez pas cru possible? Dites-moi le nouveau tort que j'ai maintenant avec vous. Voyons, dites-le-moi, sur mon âme, je ne le sais pas. Le savez-vous, ma fille? Damnation, cria le serrurier en arrachant sa perruque dans une sorte de frénésie. Personne ne le sait, non vraiment personne, à moins que ce ne soit Mix. Mix, dit Madame Varden languissamment et avec des symptômes d'une extravagance imminente, Mix m'est attaché. Et cela suffit pour attirer sur elle la haine dans cette maison. Eh bien oui, cette fille est une consolation pour moi si elle ne sait pas plaire à d'autres.
Ce n'est pas toujours une consolation pour moi, cria Gabriel, rendu audacieux par le désespoir. C'est le malheur de ma vie, elle voit elle seule toutes les plaies d'Égypte.
« Il y a des gens qui le pensent, je n'en doute pas, » dit Madame Varden. « J'étais préparée à cela, c'est naturel, cela va avec le reste. Lorsque vous m'insultez en face, comme vous le faites, puis-je m'étonner que vous l'insultiez derrière son dos ?» Et ici, l'extravagance allant son train, Madame Varden pleura, rit, soupira, frissonna, eut des hoquets et des suffocations. Elle dit qu'elle savait que c'était folie de sa part, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, et que quand elle serait morte, peut-être on aurait du chagrin de tout cela. Ce qui, réellement, vu les circonstances, ne paraissait pas tout à fait aussi probable qu'elle semblait le croire. Et elle en chanta bien plus long sur la même gamme. En un mot, elle n'oublia aucune des cérémonies qui accidentent les occasions de ce genre, et s'étant fait soutenir jusqu'au haut de l'escalier, elle fut déposée dans un état spasmodique des plus graves sur son propre lit, où bientôt après, Mademoiselle Mix se lança elle-même à corps perdu sur sa pauvre maîtresse. Le fin mot de toute cette comédie, c'est que Madame Varden désirait aller à Giguel, qu'elle désirait ne faire aucune concession et ne donner aucune explication, qu'elle ne voulait y aller qu'autant qu'on la prierait et supplierait de le faire et qu'elle était décidée à ne pas accepter d'autres conditions. En conséquence, après un total énorme de gémissements et de cris à l'étage supérieur, après qu'on eut bien humecté le front de la malade et frotté ses tempes, appliqué sous son nez le sel de corne de cerf et ainsi de suite, après les pathétiques abjurations que Mix appuya d'un grog bien chaud et pas trop faible et de divers autres cordiaux également d'une vertu stimulante, administrés d'abord avec une cuillère à thé, mais plus tard en dose toujours croissante, dont Mix elle-même prit sa part comme mesure préventive car la syncope est contagieuse, après l'emploi de tous ces remèdes et de beaucoup d'autres trop longs à citer, sinon à gober, après qu'on eut assaisonné le tout de consolations morales, religieuses et combinées, le serrurier s'humilia et le but fut atteint. « C'est seulement pour l'amour de la paix et de la tranquillité, père, » dit Dolly en le pressant de monter à la chambre.
« Oh, Dol, Dol, » dit son bonhomme de père, « si jamais vous avez un mari à vous. »
Dolly jeta un coup d'œil à la glace.
« Bien !» Quand vous aurez ce mari, continua le serrurier, pas de syncope, mignonne. La syncope trop répétée cause à elle seule plus de maux domestiques, Dol, que toutes les passions mises ensemble. Rappelez-vous ça, chère petite, si vous voulez être réellement heureuse, et vous ne pouvez l'être si votre mari ne l'est pas, un mot encore dans le tuyau de l'oreille et mon trésor, n'ayez jamais de Mix autour de vous.
Avec cet avis, il donna un baiser à sa fille sur sa joue en fleurs, et lentement, il gagna la chambre de Madame Varden. Cette dame gisait, toute pâle et languissante, sur sa couche, se réconfortant par la vue de son dernier chapeau neuf, que Mix, comme un moyen de calmer ses sens troublés, déployait sur le bord de son lit dans l'aspect le plus favorable.
« Voici monsieur, ma'am, » dit Mix. « Oh, quel bonheur quand mari et femme se raccommodent. Oh, pensez que lui et elle puissent jamais avoir un mot ensemble. »
Dans l'énergique effusion de ces espèces de toasts qui furent proférés comme une apostrophe aux cieux en général, Mademoiselle Mix percha sur sa propre tête le chapeau de sa maîtresse, croisa ses mains et se mit à pleurer.
« Je ne peux pas retenir mes larmes, » cria Mix. « Je ne le saurais même quand je devrais m'y noyer. Elle a un tel esprit de clémence et de miséricorde. Elle va oublier tout ce qui s'est passé et elle ira avec vous, monsieur. Oh oui !» Lui fallut-il aller au bout du monde, elle irait avec vous. »
Madame Varden, avec un sourire plein de langueur, blâma doucement la camériste de cet enthousiasme et lui représenta en même temps qu'elle se sentait beaucoup trop mal à son aise pour se hasarder à sortir ce jour-là.
Oh non, vous ne l'êtes pas trop, maman, en vérité, vous ne l'êtes pas trop, dit Mix. J'en appelle à monsieur. Maman sait que vous ne l'êtes pas trop, maman. Le bon air, le mouvement de la voiture vous feront du bien, maman. Il ne faut pas vous laisser abattre, il ne faut pas réellement, n'est-ce pas, monsieur, qu'elle doit se lever pour l'amour de nous tous. C'est précisément ce que j'étais en train de lui dire. Elle doit se souvenir de nous si elle s'oublie elle-même. Monsieur vous persuadera, maman, j'en suis sûr. Voici mademoiselle Dolly, prête à partir, vous savez, avec monsieur et avec vous, et tous trois, si heureux et si contents. Oh ! Cria Mix, en se remettant à pleurer avant de quitter la chambre dans une grande émotion. Jamais je n'ai vu d'angélique créature comme elle pour son esprit de clémence. Jamais, jamais je n'en ai vu. Monsieur non plus, rien n'en a jamais vu. Non, ni personne au monde, jamais.
Pendant 5 minutes environ, madame Varden fit une douce opposition aux prières de son mari, lequel lui répétait qu'elle l'obligerait en prenant un jour de plaisir, mais à la fin elle céda, se laissa persuader et lui accordant une amnistie, dont tout le mérite, disait-elle avec humilité, revenait au manuel protestant et non pas à elle, elle exprima le désir que Miggs vint l'aider à s'habiller. Miggs fut prompte à venir et nous ne ferons que rendre justice aux efforts réunis de la maîtresse et de la servante en constatant que la bonne dame, lorsqu'elle descendit après un certain temps, équipée d'une façon complète pour le voyage, paraissait jouir, comme s'il ne s'était rien passé, de la meilleure santé imaginable. Quant à Dolly, elle était là aussi, la perle et le modèle des jolis minois, parée d'une gentille petite mante couleur cerise, avec le capuchon rabattu sur sa tête, et sur le haut de ce capuchon, il y avait un petit chapeau de paille garni de rubans couleur cerise, et posé un tantinet de côté, juste assez pour en faire la plus agaçante et la plus perverse coiffure que jamais inventée une malicieuse marchande de mode, et sans parler de la manière dont ce système d'ornement couleur cerise ajoutait du brillant à ses yeux, ou rivalisait avec ses lèvres, ou répandait sur sa figure une nouvelle fleur de beauté, elle portait un si cruel petit manchon et une paire de souliers si capables de vous fendre le cœur, et elle était entourée et enveloppée, s'il est permis de le dire, de tant de coquetteries aggravantes de toute espèce, que quand M. Tapertit, tenant la tête du cheval, vit la jeune fille sortir seule de la maison, la tentation lui vint de la tirer dans la chaise et de fuir au galop comme un fou. Et il l'eût incontestablement fait sans les doutes qui l'assiégèrent au sujet de Gretna Green. Il ignorait le chemin le plus court, il ne savait pas s'il fallait monter la rue ou la descendre, tourner à droite ou tourner à gauche, si, en supposant qu'on emportât d'assaut toutes les barrières sur le chemin, le forgeron de la localité, en définitive, les marierait à crédit, ce qui, vu le caractère clérical du personnage qui prête son office complaisant à la chose, parut, même à son imagination excitée, d'une telle invraisemblance qu'il hésita. Pendant qu'il était là, hésitant et lançant à Dolly des regards de ravisseur en chaise de poste à 6 chevaux, son maître et sa maîtresse sortirent de chez eux avec la fidèle Miggs, et l'occasion propice s'évanouit pour jamais, car la carriole cria sur ses ressorts, et madame Varden fut dedans, et la carriole cria de nouveau, et plus que la première fois, et le serrurier fut dedans, et la chaise bondit comme si elle avait un léger battement de cœur, et Dolly fut dedans. Et la chaise partit, et sa place resta vide, et il ne resta plus que lui et cette lugubre Miggs debout ensemble dans la rue. Le brave serrurier était d'aussi bonne humeur que s'il ne fut rien arrivé qui le contraria pendant ces 12 derniers mois. Dolly était tout sourire et toute grâce, et madame Varden était agréable au-delà de tout précédent. Comme il roulait cahoté à travers les rues en parlant de choses et d'autres, devinez qui l'on aperçut sur le trottoir. C'était le carrossier lui-même, ayant un air si distingué que personne ne pouvait croire qu'il se fût jamais autrement occupé d'une voiture que pour s'y faire promener et saluer de là les piétons comme un noble personnage. Il est bien sûr que Dolly fut confuse quand il rendit le salut. Il est bien sûr que les rubans couleur cerise tremblèrent un peu lorsqu'elle rencontra ses mélancoliques regards qui semblaient dire « J'ai tenu ma parole, j'ai commencé, l'affaire va un train de diable et vous en êtes la cause ». Il resta là, fixé sur le sol, comme une statue, suivant l'expression de Dolly, comme une pompe, suivant l'expression de madame Varden, jusqu'à ce qu'ils eussent tourné le coin de la rue, et quand son père déclara qu'il fallait que ce garçon-là fût bien imprudent, quand sa mère demanda avec étonnement quelle pouvait être l'intention de ce jeune homme, Dolly redevint toute rouge, si rouge que son capuchon pâlit.
Mais ils n'en continuèrent pas moins gaiement leur voyage.
Le serrurier, dans l'imprudente plénitude de son cœur, levait le coude à toutes sortes d'endroits et trahissait la plus étroite intimité avec toutes les tavernes de la route et tous les hôteliers et hôtelières, amicales relations que partageait véritablement le petit cheval, car il s'arrêtait de lui-même. Jamais gens ne furent plus heureux de voir d'autres gens que ces hôteliers et hôtelières, de contempler M. Varden et Mme Varden et Mademoiselle Varden. « Ne descendrez-vous pas, disait l'un, il faut absolument que vous montiez chez nous, disait un autre. Si vous nous refusez de goûter si peu que ce soit de quelque chose, je me fâcherai et je serai convaincu que vous êtes fier, disait une troisième personne du sexe féminin, et ainsi de suite, au point que ce n'était pas tant un voyage qu'une marche solennelle, une scène d'hospitalité qui se prolongeait du commencement à la fin. Il était assez flatteur de jouir d'une pareille estime. Aussi Mme Varden ne dit rien sur le moment et fut de l'affabilité la plus délicieuse, mais quelle masse de témoignages elle recueillit ce jour-là contre l'infortuné serrurier pour en faire usage au besoin. Jamais on n'en fit pareille collection dans une enquête matrimoniale. Avec le temps, avec un temps assez long car ils ne furent pas peu retardés par ces interruptions agréables, ils atteignirent la lisière de la forêt et après la plus agréable promenade sous les arbres en berceau, ils arrivèrent enfin à l'arbre de mai. Le joyeux hola haut du serrurier amena vite à son porche le vieux John et après lui Joe, s'y transportés l'un et l'autre à la vue de ces dames, que pendant un moment il leur fut tout à fait impossible d'articuler un mot de bienvenue ni de faire autre chose que s'ébahir. Joe, toutefois, ne s'oublia qu'un moment, il revint vite à lui, poussa de côté son père somnolent. Monsieur Willett parut concevoir de cette bousculade une profonde, une inexprimable indignation et s'élança dehors comme un trait. Il se trouva en mesure d'aider ses dames à descendre. Il fallait que Dolly descendît la première. Joe l'eut dans ses bras. Oui, le temps seulement de compter jusqu'à un, Joe l'eut dans ses bras. Rayon de bonheur. Il serait difficile de décrire quelle plate et banale affaire ce fut après cela d'aider Madame Varden à descendre. Mais Joe le fit, et de la meilleure grâce du monde. Mais le vieux John, qui, ayant une vague et nébuleuse idée que Madame Varden ne l'aimait pas, n'était pas bien sûr qu'elle ne fût pas venue dans des intentions d'assaut et de bataille, prit courage, dit qu'il espérait qu'elle allait bien, et s'offrit à la conduire dans la maison. Cette offre étant reçue d'une façon amicale, ils se dirigèrent ensemble vers l'intérieur. Joe et Dolly suivirent, bras dessous, encore du bonheur, Varden composait l'arrière-garde. Le vieux John ne fut pas content qu'on ne se fût assis dans le comptoir, et personne n'y faisant objection, ce fut dans le comptoir qu'on entra. Tous les comptoirs sont de petits endroits bien commodes, mais le comptoir de l'arbre de mai était le plus mignon, le plus confortable et le plus complet que l'esprit humain eût jamais inventé. Il y avait de si merveilleuses bouteilles dans le vieux casier en bois de chêne, des pots si brillants qui pendaient à des chevilles inclinées à peu près d'avance dans la position voulue pour qu'un homme altéré les portât à ses lèvres. Il y avait de si solides barillets de Hollande rangés sur des tablettes, un si grand nombre de citrons suspendus par des filets séparés formant l'odorant bosquet dont il a déjà été question dans cette chronique et suggérant, avec des pains de sucre d'un blanc de neige amoncelé auprès, l'idée d'un punch exquis au-delà de toute connaissance humaine. Et il y avait de tels cabinets, de telles armoires, de tels tiroirs pleins de pipes, de telles places pour serrer une foule de choses dans l'embrasure des fenêtres, le tout bourré jusqu'à la gorge de comestibles, de liquides ou d'assaisonnements savoureux. Enfin, et pour couronner tout cela, comme symbole des immenses ressources de l'établissement et de son défi aux consommateurs de pouvoir en venir à bout, il y avait un si monstrueux fromage. C'aurait été un pauvre cœur, incapable de jamais se réjouir, le cœur le plus pauvre, le plus faible, le plus aqueux qui battit jamais, que celui qui ne se serait pas senti réchauffé devant le comptoir de l'arbre de mai. Ce n'est toujours pas celui de Madame Varden, car il prit feu à l'instant. Il ne lui eût pas été plus possible de faire des reproches à John Willett parmi ses dieux domestiques, les barillets et les bouteilles, les citrons et les pipes et le fromage, que de lui prendre son propre couteau à découper, si luisant, pour le poignarder du cou. Le menu du dîner aussi avait de quoi attendrir un sauvage.
un peu de poisson, dit John la cuisinière, et quelques côtelettes de mouton panées avec beaucoup de ketchup, et une bonne salade et un jeune poulet rôti, et un plat de saucisses à la purée de pommes de terre, ou quelque chose de ce genre.
Quelque chose de ce genre, voyez donc les ressources de ces auberges, indiquaient négligemment des plats qui étaient en eux-mêmes une espèce de dîner de première classe et de jour de fête, et qui convenaient à un repas de noces, les appeler quelque chose de ce genre n'était pas comme s'il avait dit « Si vous n'avez pas un jeune poulet, vous nous servirez en feu de volaille quelque autre bagatelle, un faisan par exemple ». Et la cuisine, donc, avec sa cheminée large comme une caverne, en voilà une cuisine où il ne semblait pas que l'art de cuisiner eût des limites, où vous pouviez croire à n'importe quoi de tout ce qu'on aurait pu vous raconter des choses qui se mangent. Madame Varden revint au comptoir après avoir contemplé ces merveilles, la tête tout étourdie de ravissement. Sa capacité comme ménagère n'était pas assez vaste pour les embrasser toutes. Elle fut contrainte d'aller dormir, cela faisait mal de rester les yeux ouverts au milieu d'une telle immensité. Durant ce sommeil, Dolly, dont le cœur et la tête couraient gaiement sur d'autres sujets, passa à la porte du jardin et, regardant de temps en temps derrière elle, mais ce n'était pas croyez-le bien pour voir si Joe l'avait aperçue, d'un pied léger suivit dans les champs pour remplir sa mission à la garenne, un petit sentier de traverse qu'elle connaissait fort bien. Et moi qui vous parle, j'ai été informé, et je le crois dur comme fer, que vous auriez vu peu d'objets aussi agréables que la menthe et les rubans couleur cerise lorsqu'ils voltigeaient le long des vertes prairies à la brillante lumière du jour, comme de petits étourdis qu'ils étaient.
Chapitre 20. L'orgueil qu'elle ressentait de la mission confiée à son adresse et la grande importance qu'elle en tirait naturellement l'eussent trahi aux yeux de toute la maison s'il lui avait fallu essuyer les regards de ses habitants. Mais comme Dolly avait joué maintes et maintes fois dans chaque passage et chaque sombre pièce au temps de son enfance, et que depuis elle avait été l'humble amie de Mademoiselle Herdel, dont elle était la sœur de lait, elle en connaissait aussi bien les êtres que cette jeune personne elle-même. Ne prenant donc pas d'autre précaution que de retenir son haleine et de marcher sur la pointe du pied devant la porte de la bibliothèque, elle alla droit à la chambre d'Emma comme une visiteuse privilégiée. C'était la chambre la plus gaie de l'édifice. La pièce était sans doute sombre comme le reste, mais la jeunesse et la beauté rendent une prison joyeuse, sauf hélas que l'isolement les y étiole, et prêtent quelques-uns de leurs propres charmes à la plus lugubre scène. Oiseaux, fleurs, livres, dessins, musique, et mille choses de ce genre, mille gracieux témoignages des affections et des préoccupations féminines, remplissaient de plus de vie et de sympathie humaine cette seule pièce que la maison tout entière ne semblait faite pour en contenir. Il y avait un cœur dans cette chambre, et celui qui a un cœur ne manque jamais de reconnaître la silencieuse présence d'un cœur comme le sien. Dolly en avait incontestablement un, et pas trop coriace, je vous assure, quoiqu'il y eût autour un petit brouillard de velléité coquette, comparable à ces vapeurs qui environnent le soleil de la vie dans son matin et obscurcissent un peu son lustre. Aussi, quand Emma s'étant levée pour aller à sa rencontre et l'ayant baisée affectueusement sur la joue, lui eût dit avec son calme ordinaire qu'elle avait été bien malheureuse, les larmes vinrent aux yeux de Dolly et elle se sentit plus chagrine qu'elle ne pouvait le dire. Mais un moment après, il lui arriva de relever les yeux, de les voir dans la glace, et ils avaient en vérité quelque chose de si excessivement agréable que, tout en soupirant, elle sourit et se sentit étonnamment consolée. « J'ai entendu parler de cela, mademoiselle, » dit Dolly, « et c'est vraiment fort pénible. Mais quand les choses sont au pis, elles ne peuvent que tourner au mieux. « Mais êtes-vous sûre qu'elles sont au pis ?» demanda Emma avec un triste sourire. « Mais je ne vois pas comment elles pourraient donner moins d'espérance. Je ne le vois réellement pas, » dit Dolly. Et pour qu'elle commence à changer, je vous apporte quelque chose. Ce n'est point de la part d'Edouard ? Dolly fit un signe de tête et sourit. Elle tâta dans ses poches, il y avait des poches à cette époque-là, en affectant de craindre qu'elle ne fût jamais capable de trouver ce qu'elle cherchait, ce qui rehaussa grandement son importance, puis elle finit par produire la lettre. Lorsque Emma eut bien vite rompu le cachet et dévoré l'écriture, les yeux de Dolly, par un de ces étranges hasards dont on ne saurait rendre compte, errèrent de nouveau dans la direction de la glace, elle ne put s'empêcher de se dire qu'en effet, le carrossier devait souffrir beaucoup et de plaindre tout à fait le pauvre jeune homme. C'était une longue lettre, une très longue lettre, écrite en lignes serrées sur les quatre pages, et encore entrecroisée qui plus est, mais ce n'était pas une lettre consolante, car Emma, pendant sa lecture, s'arrêta de temps en temps pour mettre son mouchoir sur ses yeux. Il est certain que Dolly s'émerveilla fort de la voir en proie à une si grande affliction, car une affaire d'amour devait être, dans son idée, un des meilleurs badinages, une des plus piquantes et des plus amusantes choses de la vie. Mais elle considéra comme positif en son esprit que tout ceci venait de l'extrême constance de Mademoiselle Herdel et que si elle voulait s'éprendre de quelque autre jeune gentleman, de la façon la plus innocente du monde, juste assez pour maintenir son premier amant à l'étiage des grandes eaux de la passion, elle se trouverait soulagée d'une manière sensible. « Bien sûr, c'est ce que je ferais si c'était moi, » pensa Dolly. « Rendre ses amants malheureux, c'est assez légitime. » Est tout à fait légitime, mais se rendre malheureuse soi-même, pas de ça. Toutefois, un tel langage aurait mal réussi. Elle demeura donc assise, à regarder en silence. Force lui fut d'avoir une patience du plus gentil tempérament. Car lorsque la longue lettre eut été lue une fois d'un bout à l'autre, elle fut relue une seconde fois. Et lorsqu'elle eut été lue deux fois d'un bout à l'autre, elle fut relue une troisième fois. Durant cette ennuyeuse séance, Dolly trompa de son mieux la lenteur du temps, elle frisa sa chevelure sur ses doigts en s'aidant du miroir déjà consulté plus d'une fois et se fit quelques boucles assassines. Toute chose à son terme, les jeunes amoureuses elles-mêmes ne peuvent pas lire éternellement les lettres qu'on leur écrit. Avec le temps, le paquet fut replié et il ne resta plus qu'à écrire la réponse. Mais comme cela promettait d'être une œuvre qui exigerait aussi du temps, Emma le remit après le dîner, disant qu'il fallait absolument que Dolly dînât avec elle. Dolly s'était d'avance proposé de le faire, il n'y eut donc pas besoin de la presser extrêmement, et ce point réglé, les deux amies sortirent pour se promener dans le jardin. Elles flânèrent en tous sens, le long des allées de la terrasse, parlant continuellement, Dolly du moins ne déparla pas une minute, et donnant à ce quartier de la lugubre maison une gaieté complète. Non qu'on les entendît parler haut, ni qu'on les vit rire beaucoup, mais elles étaient toutes les deux si bien tournées, et il faisait une si douce brise ce jour-là, et leurs légers vêtements et les brunes boucles de leurs chevelures paraissaient si libres et si joyeuses dans leur abandon, et Emma était si belle, et Dolly avait un teint si rosé, et Emma avait une taille si délicate, et Dolly était si rondelette, et en un mot, il n'y a pas de fleurs dans aucun jardin comme ces fleurs-là, quoi qu'en disent les horticulteurs. La maison et le jardin semblaient bien aussi le savoir. Il n'y avait qu'à voir la mine radieuse qu'ils avaient. Après la promenade, vint le dîner, puis la lettre fut écrite. Puis, il y eut encore quelques petites causeries dans le cours de laquelle Mademoiselle Herdel saisit l'occasion d'accuser Dolly de certaines tendances coquettes et volages. On aurait cru que Dolly prenait ces accusations pour des compliments et qu'elle s'en amusait extrêmement. La trouvant tout à fait incorrigible, Emma consentit à son départ, mais non sans lui avoir confié auparavant cette importante réponse dont jamais on ne pouvait avoir assez de soin, et elle la gratifia en outre d'un joli petit bracelet pour lui servir de souvenir. L'ayant agrafé au bras de sa sœur de lait, et lui ayant de rechef, moitié plaisamment, moitié sérieusement, conseillé de s'amender dans ses friponnes coquetteries, car Emma savait que Dolly aimait Joe au fond du cœur, ce que Dolly niait avec force en multipliant d'altières protestations et qu'elle espérait bien rencontrer mieux que cela en vérité, et ainsi de suite, Mademoiselle Herdel lui dit adieu et après l'avoir rappelé, elle lui donna pour Édouard quelques messages supplémentaires qu'une personne 10 fois plus grave que Dolly aurait eu de la peine à retenir et elle la congédia enfin. Dolly lui dit adieu et sautant avec légèreté les marches de l'escalier, elle arriva à la porte de la terrible bibliothèque, devant laquelle elle allait repasser sur la pointe du pied lorsque cette porte s'ouvrit et tout à coup parut M. Herdel. Or, Dolly avait dès son enfance associé avec l'idée de ce gentleman celle de quelque chose d'affreux comme un fantôme, sa conscience étant d'ailleurs au même moment agitée de remords. La vue de l'oncle d'Emma la jeta dans un tel désordre d'esprit qu'elle ne put ni le saluer ni s'échapper. Elle éprouva un grand tressaillement et puis elle resta là, les yeux baissés, immobile et tremblante.
« Venez ici, petite fille, » dit M. Herdel en la prenant par la main, « j'ai à vous parler. »«
S'il vous plaît, monsieur, il faut que je me dépêche, » balbutia Dolly, « et vous m'avez effrayé en m'abordant d'une manière si soudaine, monsieur. J'aimerais mieux m'en aller, monsieur, si vous étiez assez bon pour me le permettre. »
« Immédiatement, » dit M. Herdel, qui pendant ce temps l'avait conduite dans la bibliothèque dont il avait fermé la porte, « vous vous en irez tout de suite. Vous venez de quitter Emma ?»«
Oui, monsieur, il n'y a qu'une minute. Mon père m'attend, monsieur, ayez la bonté, s'il vous plaît. »«
je sais, » dit M. Herdel. « Répondez à cette question. Qu'avez-vous apporté ici, aujourd'hui ?»«
Apporté ici, monsieur ?» balbutia Dolly.
« Vous me direz la vérité, j'en suis sûr, n'est-ce pas ?»
Dolly hésita un instant, et quelque peu enhardie par le ton de M. Herdel, elle dit enfin
« Eh bien, monsieur, c'était une lettre
de M. Edward Chester, naturellement, et vous remportez la réponse. »
Dolly hésita de nouveau, et faute de mieux, elle fondit en larmes.
« Vous vous alarmez sans motif, » dit M. Herdel. « Pourquoi cet enfantillage ?»« Assurément, vous pouvez me répondre. Vous savez que je n'aurai qu'à poser la question à Emma pour connaître aussitôt la vérité. Avez-vous la réponse sur vous ?»
Dolly avait, comme on dit, son petit caractère, et se voyant alors joliment aux abois, elle le déploya de son mieux.
« Oui, monsieur, » répliqua-t-elle, toute tremblante et effrayée qu'elle était, « oui, monsieur, je l'ai. Vous pouvez me tuer si vous voulez, monsieur, mais je ne m'en dessaisirai pas. J'en suis très fâchée, mais je ne la livrerai pas. Voilà, monsieur. »
« Je loue votre fermeté, votre franchise, » dit M. Herdel, « soyez assuré que je désire aussi peu vous ravir votre lettre que votre vie. Vous êtes une très discrète messagère et une bonne fille. »
Ne se sentant point la pleine certitude, comme elle l'avoua plus tard, qu'il n'allait pas sauter sur elle à la faveur de ses compliments, Dolly se tint éloignée de lui autant qu'elle put et pleura de nouveau, décidée à défendre sa poche, où était la lettre, jusqu'à la dernière extrémité.
« J'ai quelque intention, » dit M. Herdel après un court silence, pendant lequel un sourire, alors qu'il regarda Dolly, avait percé le sombre nuage de mélancolie naturelle répandu sur sa figure, « de procurer une compagne à ma nièce, car sa vie est très solitaire. Aimeriez-vous cette position ? Vous êtes la plus ancienne amie qu'elle ait, et vous avez, à notre préférence, les meilleurs titres.
Je ne sais, monsieur, » répondit Dolly, craignant un peu qu'il ne voulût se moquer d'elle. « Je ne peux rien vous dire. J'ignore ce qu'on en penserait à la maison. Je ne peux pas vous donner mon opinion là-dessus, monsieur. »«
Si vos parents n'y avaient pas d'objection, en auriez-vous pour votre compte ?» dit M. Herdel. « Allons, c'est une question toute simple, à laquelle il est aisé de répondre. »«
Aucune, absolument, que je sache, monsieur, » répliqua Dolly. « Je serai fort heureuse, sans doute, d'être auprès de Mademoiselle Emma, car c'est toujours un bonheur pour moi. »
« Très bien, » dit M. Herdel, « voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous brûlez de vous en aller, libre à vous, je ne vous retiens plus. »
Dolly ne se laissa point retenir et n'attendit point qu'il l'essayât, car ces mots n'eurent pas sitôt fui des lèvres de M. Herdel que Dolly avait fui aussi de la chambre et de la maison et se retrouvait dans les champs. La première chose qu'elle fit, comme de raison, quand elle revint à elle-même et qu'elle considéra le grand témoin où elle venait d'être, ce fut de repleurer de nouveau. Et la seconde, lorsqu'elle réfléchit au succès de sa résistance, ce fut de rire de tout son cœur. Les larmes, une bonne fois bannies, cédèrent la place au sourire, et Dolly finit par rire tant, mais tant, qu'il lui fallut s'appuyer contre un arbre et donner carrière à ses transports. Quand elle ne put pas rire davantage et qu'elle en fut tout à fait fatiguée, elle rajusta sa coiffure, sécha ses yeux, regarda derrière elle, avec une joie bien vive et bien triomphante, les cheminées de la Garenne qui allaient bientôt disparaître à sa vue, et poursuivit sa route. Le crépuscule était survenu, et l'obscurité augmentait d'une manière rapide dans la campagne. Mais Dolly était si familiarisée avec le sentier pour l'avoir traversé bien souvent, qu'elle s'apercevait à peine de la brume et n'éprouvait aucun malaise d'être seule. D'ailleurs, il y avait le bracelet à admirer, et quand elle l'eut bien frotté, et se le fut offert en perspective au bout de son bras étendu, il étincelait et reluisait si magnifiquement à son poignet que le contempler dans tous les points de vue et en tournant le bras de toutes les façons possibles était devenu une occupation tout à fait absorbante. Il y avait la lettre aussi, et qui lui semblait si mystérieuse, si rusée, quand elle la tira de sa poche, et qui contenait tant d'écritures sur ses pages, que de la tourner et retourner en se demandant de quelle manière elle commençait, de quelle manière elle finissait, et ce qu'elle disait tout du long, cela devint un autre sujet d'occupation continuelle. entre le bracelet et la lettre, et il eut bien assez à faire, sans penser à autre chose, et en les admirant tour à tour, Dolly chemina gaiement. Comme elle passait par une porte d'échalier, là où le sentier était étroit et flanqué de deux haies garnies d'arbres de place en place, elle entendit tout près d'elle un frôlement qui la fit s'arrêter soudain. Elle écouta, tout était tranquille, et elle poursuivit sa route, non pas absolument avec frayeur, mais avec un peu plus de vitesse qu'avant peut-être. Il est possible aussi qu'elle fût un peu moins à son aise, car une alerte de ce genre est toujours saisissante. Elle n'eut pas sitôt repris sa marche qu'elle entendit le même son, semblable au bruit d'une personne qui se glisserait à pas de loup le long des buissons et des broussailles. Regardant du côté d'où ce bruit paraissait venir, elle s'imagina presque pouvoir distinguer une forme rampante. Elle s'arrêta de rechef, tout était tranquille comme avant, elle se remit en marche, décidément plus vite cette fois, et elle essaya de chanter doucement à part elle. Bon, encore, il fallait donc que ce fût le vent. Mais comment arrivait-il que le vent soufflât seulement lorsqu'elle marchait et qu'il cessa de souffler lorsqu'elle restait immobile ? Elle s'arrêta sans le vouloir en faisant cette réflexion et le frôlement s'arrêta également. Elle ressentait en réalité de la frayeur à présent et elle hésitait encore sur ce qu'elle devait faire quand des branches craquèrent, se cassèrent et un homme, plongeant au travers, vint se planter en face d'elle et tout près d'elle.
Chapitre 21. Ce fut pour Dolly un soulagement inexprimable lorsqu'elle reconnut en la personne qui avait pénétré de force dans le sentier d'une façon si soudaine et qui maintenant se trouvait debout précisément sur son passage, Hugues de l'Arbre de Mai. Elle proféra son nom d'un accent de délicieuse surprise, d'un accent sorti du cœur. « C'était vous, dit-elle, que je suis heureuse de vous voir. Comment pouviez-vous m'effrayer ainsi ?» En réponse à cela, il ne dit rien du tout, mais resta parfaitement immobile à la regarder. « Est-ce que vous êtes venu à ma rencontre ?» demanda Dolly. Hugues fit un signe de tête affirmatif et marmotta quelque chose dont le sens était qu'il l'avait attendue et qu'il croyait la revoir plus tôt. « Je supposais bien qu'on en verrait au-devant de moi, » dit Dolly, grandement rassurée par les paroles de Hugues. « Personne ne m'a envoyé, » répondit-il d'un air maussade. « Je suis venu de mon chef. » Les rudes manières de ce garçon et son extérieur étrange et inculte avaient souvent rempli la jeune fille d'une crainte vague, même quand il y avait là d'autres personnes. Et cette crainte était cause qu'elle s'éloigna involontairement de lui. La pensée d'avoir en lui un compagnon venu de son chef dans cet endroit solitaire et lorsque les ténèbres se répandaient avec rapidité autour d'eux, renouvela et même augmenta les alarmes qu'elle avait ressenties d'abord. Si l'air de Hugues n'avait été que hargneux et passivement farouche, comme d'habitude, elle n'aurait pas eu pour sa compagnie plus de répugnance qu'elle en avait toujours éprouvée. Peut-être même eût-elle été bien aise de cette escorte. Mais il y avait dans ses regards une espèce de grossière et audacieuse admiration qui la terrifia. Elle jetait sur lui des coups d'œil timides, incertaines si elle devait avancer ou reculer, et lui, debout, la regardait comme un beau satyre, et ils restèrent ainsi pendant quelque temps, sans bouger ni rompre le silence. Enfin, Dolly prit courage, le dépassa d'un bond et marcha précipitamment. « Pourquoi donc vous essoufflez-vous à m'éviter ?» dit Hugues en accommodant son pas à celui de la jeune fille et se tenant tout près d'elle. « Je veux rentrer le plus vite possible. Et d'ailleurs, vous marchez trop près de moi, » répondit Dolly. « Trop près ?» dit Hugues en se baissant sur elle, au point qu'elle pouvait sentir l'haleine de celui-ci sur son front. « Pourquoi trop près ? Vous êtes toujours fière avec moi, mistress. »« Je ne suis fière avec personne. « Vous me jugez mal, » répondit Dolly. « Tenez-vous en arrière, s'il vous plaît, ou allez-vous-en. »« Non, mistress, » répliqua-t-il, en cherchant à mettre le bras de la jeune fille dans le sien, « j'irai avec vous. » Elle se dégagea, et serrant sa petite main, elle le frappa avec toute la bonne volonté possible. Ce coup fit éclater de rire Hugues, ou plutôt il poussa un rugissement jovial. Et lui passant son bras autour de la taille, il la retint dans sa forte étreinte aussi aisément que si elle eût été un oiseau. « Bravo, mistress, frappez encore, meurtrissez-moi la figure, arrachez-moi les cheveux, déracinez-moi la barbe, j'y consens pour l'amour de vos beaux yeux, frappez encore, maîtresse, allons, ça me fait plaisir. »
lâchez-moi, cria-t-elle en s'efforçant avec les deux mains de se débarrasser de lui. Lâchez-moi, tout de suite.
Vous feriez bien d'être moins cruel pour moi, mon adorable, dit Hugues. Vous feriez bien, en vérité. Voyons, pourquoi êtes-vous toujours si fière?
Mais je ne vous en fais pas de reproche. J'aime à vous voir fière comme cela.
Vous ne pouvez pas cacher votre beauté à un pauvre garçon. C'est toujours ça.
Elle ne lui fit aucune réponse, mais comme il ne l'avait pas encore empêchée de continuer sa marche, elle avançait le plus vite qu'elle pouvait. À la fin, tandis qu'elle marchait avec précipitation dans sa terreur et qu'il l'étreignait davantage, la force manqua à la pauvre enfant et elle ne put pas aller plus loin.
« Hugues, cria la jeune fille haletante, si vous me laissez, je vous donnerai quelque chose, tout ce que j'ai, et je ne dirai jamais un mot de ceci à âme qui vive. »
« C'est ce que vous avez de mieux à faire, » répondit-il. « Écoutez, petite colombe, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Tout le monde d'alentour me connaît, et l'on sait ce dont je suis capable quand je veux. Si jamais vous êtes tenté de parler de cela, arrêtez-vous avant que les mots s'échappent de vos lèvres et pensez au mal que vous attireriez en jasant sur quelque tête innocente dont vous ne voudriez pas qu'il tombât un cheveu. Faites-moi de la peine et je leur en ferai, et quelque chose de plus en retour. » Je ne me soucie pas plus de leur peau que si c'était des chiens, pas même autant. Et pourquoi m'en soucierais-je? Il n'y a pas de jour où je ne fusse plus disposé à tuer un homme qu'un chien. Je n'ai jamais été peiné de la mort d'un homme dans toute ma vie, et la mort d'un chien m'a fait de la peine. »
Il y avait quelque chose de si complètement sauvage dans le caractère de ses expressions, dans les regards et les gestes dont elles étaient accompagnées, que la frayeur de Dolly lui donna une nouvelle vigueur et la rendit capable de se dégager par un soudain effort et de courir de toute sa vitesse. Mais Hugues était aussi agile et vigoureux, aussi rapide à la course que n'importe quel coureur dans toute l'Angleterre. Ce ne fut qu'une vaine dépense d'énergie, car avant que la fugitive eût fait 100 pas, il l'entoura une seconde fois de ses bras.
« Doucement, chérie, doucement! Voudriez-vous donc fuir le rude Hugues, qui ne vous aime pas moins que n'importe quel galant de salon ?»«
Oui, je le voudrais, » dit-elle en s'efforçant de se dégager de nouveau. « Je le veux, au secours !»«
À l'amende pour avoir crié ainsi, » dit Hugues. « Une amende, une gentille amende que vont payer vos lèvres. Tenez, je me paye moi-même. Au secours, au secours, au secours !»
Comme elle poussait ce cri perçant avec toute la véhémence qu'elle pouvait y mettre, on entendit un cri répondre au sien, puis un autre, et un autre encore.
« Ah, merci, mon Dieu !» s'écria la jeune fille dans l'ivresse de la délivrance. « Joe, cher Joe, par ici, au secours !»
Hugues cessa son attaque et resta irrésolu pendant un moment, mais les cris approchant de plus en plus et arrivant vite sur eux le forcèrent de prendre une prompte résolution. Il relâcha Dolly, chuchota d'un air de menace. « Vous n'avez qu'à lui conter ça et vous en verrez les suites !» Puis, sautant par-dessus la haie, il disparut en un instant. Dolly s'élança comme une flèche et courut se jeter tout bellement dans les bras ouverts de Joe Willett.
« Qu'y a-t-il? Êtes-vous blessé? Qu'était-ce donc? Qui était-ce? Où est-il? À quoi ressemblait-il ? »
Telles furent les premières paroles qui jaillirent de la bouche de Joe avec un grand nombre d'expressions encourageantes et d'assurance qu'elle n'avait plus rien à craindre. Mais la pauvre petite Dolly était si hors d'haleine et si terrifiée que pendant quelque temps elle ne put lui répondre et resta pendue à l'épaule de son libérateur, sanglotant et pleurant comme si son cœur voulait se briser. Joe n'avait pas la moindre objection à sentir Dolly suspendue à son épaule, non pas la moindre, quoique cela froissât pitoyablement les rubans couleur cerise et ôta à l'élégant petit chapeau toute espèce de forme. Mais il ne supporta pas la vue de ses larmes. Cela lui alla au fond du cœur, il essaya de la consoler, se pencha sur elle, lui chuchota quelques mots, d'aucuns prétendent qu'il lui donna quelques baisers, mais c'est une fable. Quoi qu'il en soit, Joe dit toutes les affectueuses et tendres choses qu'il put imaginer, et Dolly le laissa continuer sans l'interrompre une seule fois, et 10 bonnes minutes se passèrent avant qu'elle fût en état de relever la tête et de le remercier.
« Qu'est-ce donc qui vous a effrayé ? » dit Joe.
« Un homme, un inconnu, l'avait suivi, répondit-elle. Il avait commencé par lui demander l'aumône, puis il en était venu à des menaces de vol, menaces qu'il était prêt de mettre à exécution et qu'il aurait exécutées si Joe n'était accouru à temps pour la défendre. » La manière hésitante et confuse dont elle dit tout cela fut attribuée par Joe à l'effroi qu'elle avait éprouvé pour le moment. Il ne soupçonna pas la vérité le moins du monde.
Arrêtez-vous avant que ces mots s'échappent de vos lèvres, 100 fois durant cette soirée et bien des fois à une époque postérieure, quand la révélation monta pour ainsi dire à sa langue, Dolly se rappela l'avertissement de Hugues et se retint de parler. Une terreur de cet homme profondément enracinée chez elle, la certitude que sa féroce nature, une fois excitée, ne reculerait devant rien, et la conviction que si elle l'accusait, sa colère et sa vengeance se déchargeraient pleinement sur Joe, son libérateur, ce furent là des considérations qu'elle n'eut pas le courage de surmonter, des motifs trop puissants de garder le silence pour qu'elle en pût triompher. Joe, de son côté, était beaucoup trop heureux pour pousser ses questions avec une grande curiosité, et Dolly étant, du sien, encore trop tremblante pour marcher sans appui, ils avancèrent très lentement et, selon lui, très agréablement, jusqu'à ce que les lumières de l'arbre de mai furent tout près, plus brillantes que jamais, pour leur faire un joyeux accueil. Alors Dolly s'arrêta tout à coup et poussa un demi-cri d'effroi. « La lettre !»« Quelle lettre ?» cria Joe. « Celle que j'apportais. Je l'avais à la main. Mon bracelet aussi, » dit-elle en serrant de sa main le poignet de l'autre. « Je les ai perdus, tous les deux. »« Ne faites-vous que de vous en apercevoir, » dit Joe. « Je les ai laissés tomber où on me les avait pris, » répondit Dolly, tandis qu'elle fouillait en vain dans sa poche et secouait ses vêtements. « Ils n'y sont plus, ils ont disparu tous les deux. Malheureuse fille que je suis !» À ces mots, la pauvre Dolly, qui, pour lui rendre justice, était absolument aussi chagrine d'avoir perdu la lettre que le bracelet, pleura de nouveau et gémit sur son destin d'une façon très touchante. Joe la consola en l'assurant qu'aussitôt qu'il l'aurait mise en sûreté à l'arbre de mai, il retournerait à l'endroit avec une lanterne, car il faisait maintenant tout à fait noir, et chercherait scrupuleusement les objets perdus qu'il trouverait selon la plus grande probabilité, car il n'était pas vraisemblable que quelqu'un eût depuis passé par là, et elle n'avait pas la conviction que ces objets lui eussent été soustraits. Dolly le remercia très cordialement de son offre, en avouant qu'elle n'espérait guère qu'il réussît dans ses recherches, et de la sorte, avec beaucoup de lamentations du côté de Dolly et beaucoup de paroles d'espoir du côté de Joe, et une extrême faiblesse du côté de Dolly et le plus grand empressement à la soutenir du côté de Joe, ils purent atteindre enfin le comptoir de l'arbre de mai, où le serrurier, sa femme et le vieux John prolongeaient encore un joyeux festin. Monsieur Willett reçut la nouvelle de l'accident de Dolly avec cette surprenante présence d'esprit et cette promptitude d'élocution qui le distinguait d'une façon si éminente et le plaçait au-dessus des autres hommes. Madame Varden exprima sa sympathie pour la douleur de sa fille en la grondant vertement de revenir si tard, et le bon serrurier se partagea entre les consolations et les baisers qu'il donnait à Dolly et les poignées de main qu'il prodiguait à Joe, ne pouvant assez le louer et le remercier. Sur cet article, le vieux John était loin d'être d'accord avec son ami, car, outre qu'en thèse générale, il n'avait aucun goût pour les esprits aventureux, il lui vint à l'idée que si son fils et héritier avait été sérieusement endommagé dans une batterie, cela aurait eu des conséquences sans aucun doute dispendieuses, gênantes et peut-être même préjudiciables aux affaires de l'arbre de mai. Pour cette raison, et aussi parce qu'il ne regardait pas d'un œil favorable les jeunes filles, mais plutôt les considérait avec le sexe féminin tout entier comme une espèce de bévue de la nature, il sortit du comptoir sous un prétexte et alla secouer sa tête, en particulier devant le chaudron en cuivre. Inspiré et incité par ce silencieux oracle, il fit du coude quelques signes clandestins à Joe, en guise de paternel reproche et de douce admonition, comme pour lui dire « Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires au lieu de faire des sottises pareilles. » Joe, toutefois, prit sur une planche la lanterne et l'alluma, puis, s'armant d'un solide bâton, il demanda si Hugues était dans l'écurie. « Il dort, étendu devant le feu de la cuisine, monsieur, » dit monsieur Willett. « Que lui voulez-vous ? » « Je veux l'emmener avec moi pour chercher ce bracelet, » répondit Joe. « Hola, venez ici, Hugues !» Dolly devint pâle comme la mort et se sentit toute prête à s'évanouir. Quelques moments après, Hugues entra d'un pas chancelant, en s'étirant et bâillant selon son habitude et ayant tout à fait l'air d'avoir été réveillé d'un profond somme. « Ici, dormeur éternel, » dit Joe en lui donnant la lanterne, « emportez cela et amenez le chien. Malheur à cet individu si nous l'attrapons. »
« Quel individu ?» grogna Hugues en frottant ses yeux et se secouant. « Quel individu ?» répliqua Joe, qui, dans sa bouillante valeur, ne pouvait pas rester en place. « Vous sauriez de quel individu il s'agit si vous étiez un peu plus vigilant. Il est bien digne de vous et de ceux qui vous ressemblent, paresseux géants que vous êtes, de passer le temps à ronfler dans le coin d'une cheminée, quand les filles des honnêtes gens ne peuvent traverser même nos paisibles prairies à la chute du jour sans être attaquées par des voleurs et effrayées au point que cela compromet leur précieuse vie. »
« Jamais il ne me vole, moi !» cria Hugues en riant. « Je n'ai rien à perdre, mais c'est égal, je les assommerai aussi volontiers que d'autres. Combien sont-ils ? » ?»«
Un seul, » dit Dolly d'une voix faible, car tout le monde l'a regardé.
« Et quelle espèce d'homme, mistress ?»
dit Hugues en lançant sur le jeune Willett un coup d'œil si léger, si rapide, que ce qu'il avait de menaçant fut perdu pour tous, excepté pour elle.
« À peu près de ma taille ?»
Non, pas si grand, répliqua Dolly, qui savait à peine ce qu'elle disait.
Son costume, dit Hugues en la regardant d'une manière perçante, ressemblait-il à quelqu'un des nôtres? Je connais tous les gens des alentours, et peut-être que je mettrais sur la voie de cet homme si j'avais un simple renseignement pour me guider.
Dolly balbutia et redevint pâle. Puis elle répondit qu'il était enveloppé d'un habit très ample et que sa figure était cachée par un mouchoir, et qu'elle ne saurait fournir d'autres détails de signalement.
Ah, « Alors il est probable que vous ne le reconnaîtriez pas si vous le voyez, » dit Hugues avec un malicieux sourire qui montra ses dents.
« Je ne le reconnaîtrai pas, » répliqua Dolly, et elle fondit de nouveau en larmes. « Je souhaite de ne pas le revoir. Penser à lui m'est insupportable. Je ne peux même en parler davantage. Monsieur Joe, je vous en prie, n'allez pas à la recherche de ces objets. Je vous conjure de ne pas aller avec cet homme. »
« De ne pas aller avec moi ?» cria Hugues. « Ne semble-t-il pas que je sois un épouvantail pour eux tous ? Ils ont tous peur de moi ? Ah bien, par exemple, mistress, vous ne savez donc pas que j'ai le plus tendre cœur qu'il y ait au monde. J'aime toutes les dames, madame !» dit Hugues en se tournant vers la femme du serrurier.
Madame Varden émit l'opinion que s'il disait vrai, il devrait en mourir de honte. Des sentiments pareils, convenant mieux, selon elle, à un musulman plongé dans la nuit de l'erreur ou à un sauvage des îles qu'à un zélé protestant. D'après la conclusion qu'elle tira de l'état imparfait des principes moraux de Hugues, elle émit ensuite l'opinion qu'il n'avait sans doute jamais étudié le manuel. Hugues admettant qu'il ne l'avait jamais lu, pour plusieurs raisons, dont la première était qu'il ne savait pas lire, Madame Varden déclara avec beaucoup de sévérité qu'il devrait encore bien plus mourir de honte. Elle lui recommanda fortement d'économiser l'argent de ses menus plaisirs pour l'acquisition d'un exemplaire de ce livre dont il ferait bien, après cela, d'apprendre le contenu par cœur en toute diligence. Elle était encore à développer ce texte quand Hugues, d'une manière quelque peu incérémonieuse et irrévérente, suivit son jeune maître dehors, la laissant édifier sans fin le reste de la compagnie. C'est ce qu'elle continua de faire, et trouvant que les yeux de M. Willett étaient fixés sur elle, avec une apparence de profonde attention, elle lui adressa graduellement la totalité de son discours. Elle lui fit une leçon morale et théologique d'une longueur considérable, dans la conviction qu'elle opérait sur lui les effets les plus merveilleux. Voici cependant la simple vérité. Quoique ses yeux fussent tout grands ouverts et qu'il vit devant lui une femme dont la tête, à force de la regarder longtemps et fixement, lui avait semblé devenir si grosse petit à petit qu'elle eut bientôt rempli le comptoir, M. Willett était bel et bien endormi. Et il demeura ainsi penché en arrière sur sa chaise, les mains dans ses poches, jusqu'à ce que le retour de son fils l'arrachât au sommeil. On l'entendit soupirer profondément, car il lui restait une vague idée d'avoir rêvé de porc mariné aux légumes, vision de ses sommeils qu'il fallait imputer sans aucun doute à la circonstance d'avoir entendu Madame Varden prononcer fréquemment le mot « grâce » avec l'accent oratoire. Or, ce mot, entrant dans le cerveau de M. Willett pendant que la porte en était entrebâillée, et s'y accouplant avec les mots « après le repas » qui errait tout autour, lui suggéra par le souvenir des grâces l'idée de ce mets particulier avec l'espèce de légumes qui l'accompagne d'ordinaire. Les recherches n'avaient eu aucun succès. Joe avait tâté le long du sentier une douzaine de fois dans l'herbe, dans le fossé à sec et dans la haie, mais tout cela en vain. Inconsolable de sa double perte, Dolly écrivit à Mademoiselle Herdel un billet qui lui donnait là-dessus les mêmes renseignements qu'elle avait donnés déjà à l'arbre de mai, et Joe se chargea de remettre ce billet en main propre le lendemain, dès qu'il y aurait quelqu'un de levé dans la maison. Après cela, on s'assit pour prendre le thé dans le comptoir. Il y eut une prodigalité peu commune de rôti beurré et, afin que les voyageurs n'éprouvassent pas de faiblesse par défaut de nourriture, et en faisant pour ainsi dire une bonne petite halte à mi-chemin entre le dîner et le souper, on n'oublia pas quelques savoureuses bagatelles sous forme de larges grillades de lard bien soignées, cuites à point et toutes fumantes, qui exhalèrent un parfum délicieux et appétissant. Madame Varden, bonne protestante d'ailleurs, ne protestait jamais contre un bon repas, où il fallait donc que les mets fussent trop cuits ou trop cuits, ou qu'il y eût n'importe quoi qui eût altéré son humeur. L'aspect de ces excellentes préparations augmentant beaucoup son entrain, elle, qui venait de dire que les bonnes œuvres n'étaient rien sans la foi, déclara de la manière la plus gaie que le jambon et la rôtie étaient quelque chose. Bien plus, sous l'influence de ces salutaires stimulants, elle reprocha vivement à sa fille d'être abattue et découragée, ce qu'elle considérait comme une disposition d'esprit condamnable. Et elle remarqua, en tendant son assiette pour prendre encore un morceau, qu'au lieu de se désoler de la perte d'une babiole et d'une feuille de papier, elle ferait bien mieux de réfléchir aux privations des missionnaires dans les pays étrangers, où ces bons chrétiens poussent le dévouement jusqu'à ne vivre que de salade. Les accidents divers d'une semblable journée sont bien faits pour occasionner quelques fluctuations dans le thermomètre humain. Et surtout lorsque cet instrument est d'une construction aussi délicate et d'une aussi grande sensibilité que celui de Madame Varden. Ainsi, au dîner, Madame Varden se tint à la chaleur d'été. Elle fut sereine, souriante, délicieuse. Après le dîner, le vin lui avait donné un coup de soleil qui l'éleva au moins d'une demi-douzaine de degrés. On n'avait jamais vu pareille enchanteresse. Maintenant, elle était redescendue à la chaleur d'été, à l'ombre. Et lorsque le thé fut fini et que le vieux John, tirant de son casier de chêne une bouteille d'un certain cordial, insista pour qu'elle en bût deux verres à petits traits et fort lentement, elle remonta et se tint fixe à 90 pendant 1 h 15. Instruit par l'expérience, le serrurier profita de cette sereine température pour fumer sa pipe sous le porche et grâce à sa conduite prudente, il était pleinement en mesure, quand baissa le thermomètre, de partir aussitôt pour retourner au logis. En conséquence, le cheval fut attelé et la chaise amenée devant la porte. Joe, que rien n'aurait pu dissuader de leur servir d'escorte jusqu'à ce qu'ils eussent passé la partie la plus solitaire et la plus terrible de la route, fit sortir en même temps de l'écurie la jument grise. Et après avoir aidé Dolly à monter en voiture, encore du bonheur, il sauta en selle gaiement. Puis, après qu'on eût dit plusieurs fois bonsoir aux voyageurs, qu'on leur eût recommandé de s'envelopper, qu'en dirigeant sur eux le rayon des lumières, on leur eût tendu leur manteau et leur châle, la carriole roula et Joe trotta auprès, du côté de Dolly, cela va sans dire, et presque tout contre la route. Chapitre 22. C'était une belle et brillante nuit. Malgré son abattement, Dolly regardait les étoiles avec une attitude et d'une manière si propre à ensorceler, elle le savait bien, que Joe en avait perdu la tête. Et que si jamais un homme s'enfonça, c'est trop peu dire, jusqu'aux oreilles et par-dessus la tête, mais plutôt par-dessus le monument et le dôme de Saint-Paul, dans le fin fond de l'amour, cet homme-là, c'était lui, la chose était claire comme le jour. La route était fort bonne, ce n'était pas une route à chaos, ni même une route inégale, et cependant Dolly, de sa petite main, voulut se retenir à la chaise durant tout le trajet. Quand il y aurait eu là, derrière lui, un exécuteur avec sa hache levée en l'air et prêt à le décoller s'il touchait à cette main, Joe n'aurait pas pu s'empêcher de le faire. Après avoir mis sa propre main sur celle de Dolly comme par hasard et l'avoir retirée au bout d'une minute, il en vint à chevaucher tout le long de la route sans retirer sa main du tout. J'ai dit que l'escorte avait cette consigne comme partie importante de son service et qu'elle n'avait pas quitté l'arbre de mai pour autre chose. Le plus curieux incident de ce petit épisode, c'est que Dolly avait l'air de ne pas s'en apercevoir. Elle semblait si pleine d'innocence, si sainte Nitouche quand elle tournait ses yeux sur lui, que c'en était agaçant. Elle parla néanmoins, elle parla de sa frayeur et de l'arrivée de Joe à son secours, et de sa reconnaissance, et de sa crainte de ne pas l'avoir assez remercié, et de l'espérance que désormais il vivrait comme une bonne paire d'amis, et de mille choses de ce genre. Et quand Joe exprima l'espoir, au contraire, qu'il ne vivrait pas comme une bonne paire d'amis, Dolly parut extrêmement surprise, et elle exprima l'espoir qu'ils ne seraient toujours pas des ennemis. Et quand Joe lui demanda s'il ne pourrait pas être quelque chose de mieux qu'ami ou ennemi, tout à coup Dolly de découvrir une étoile plus étincelante que toutes les autres étoiles et d'y appeler l'attention du jeune homme et d'être mille fois plus pleine d'innocence et plus sainte Nitouche que jamais. Ils poursuivaient de cette façon leur voyage, chuchotant plutôt qu'ils ne parlaient et souhaitant que la route s'allongeât à peu près de 12 fois sa longueur naturelle. C'était du moins le souhait de Joe lorsque, au moment de sortir de la forêt et de déboucher dans la partie la plus fréquentée de la route, ils entendirent le bruit des pas d'un cheval allant au grand trot. Ce bruit, devenu vite plus distinct à mesure qu'il approchait, arracha à Madame Varden un cri perçant auquel répondit cette exclamation « Ami !» poussée par le cavalier qui arriva aussitôt tout haletant et arrêtant son cheval auprès d'eux. « Encore cet homme !» cria Dolly en frissonnant. « Hugues, dit Joe, quelle commission vous a-t-on donnée ?»« Celle de revenir avec vous, » répondit-il en lançant à la fille du serrurier un secret coup d'œil. « C'est lui qui m'envoie. »« Mon père, » dit le pauvre Joe, et il ajouta à voix basse cette apostrophe très peu filiale, « il ne me croira donc jamais assez grand pour me protéger moi-même. » « Oui, votre père, » répliqua Hugues à la première partie de la question, « il dit que depuis quelque temps, les routes ne sont pas sûres et qu'il vaut mieux que vous n'y soyez pas seul. »« Dans ce cas, allez toujours, » dit Joe, « je ne reviens pas encore. » Hugues obéit et on continua le voyage. Par caprice ou par goût, il chevaucha immédiatement devant la chaise et de cette position, il tournait sans cesse la tête pour regarder en arrière. Dolly sentit qu'il la regardait, mais elle détourna ses yeux et craignit de les lever une seule fois, tant était grande la terreur qu'il lui inspirait. Cette interruption, en éveillant Madame Varden, qui avait dormi jusque-là la tête inclinée, sauf pendant une minute ou deux de temps en temps, lorsqu'elle reprenait ses sens pour gronder le serrurier qui se permettait de la retenir et l'empêcher de choir de la voiture en inclinant ainsi la tête, vint mettre des entraves à la conversation qui se chuchotait tout bas et la rendit fort difficile à reprendre. Effectivement, avant qu'on eût fait un autre mille, Gabriel arrêta, selon le désir de sa femme, et cette bonne dame déclara positivement que Joe ne ferait point un pas de plus sous aucun prétexte et qu'elle n'en voulait point entendre parler. Ce fut en vain que, de son côté, Joe protesta qu'il n'était nullement fatigué, qu'il tournerait bride tout à l'heure, qu'il voulait seulement les voir sains et saufs au-delà de tel ou tel endroit, et ainsi de suite. Madame Varden s'obstina, et quand elle s'obstinait, il n'y avait pas de pouvoir terrestre capable d'en venir à bout. « Bonsoir, puisqu'il faut vous le dire, » dit Joe avec un peu de tristesse. « Bonsoir, » dit Dolly. Elle aurait bien ajouté, « gardez-vous de cet homme, ne vous y fiez pas, je vous en prie. » Mais Hugues avait retourné son cheval, et il se trouvait tout près d'eux. Elle ne put donc faire autre chose que de souffrir que Joe lui serra les doigts, et quand la voiture fut à quelque distance, de regarder en arrière et d'agiter sa main, tandis qu'il était encore arrêté sur le lieu de leur séparation, avec cette grande et sombre figure de Hugues auprès de lui. À quoi pensa-t-elle en revenant au logis? Le carrossier eut-il dans ses méditations une place aussi favorisée que celle qu'il avait occupée le matin? C'est ce qu'on ignore. Ils arrivèrent enfin à la maison, enfin car la route était longue, et les gronderies de Madame Varden ne la raccourcissaient pas du tout. Miggs, entendant le bruit des roues, fut aussitôt à la porte. « Les voilà, Simon, les voilà !» cria Miggs en claquant des mains et sortant pour aider sa maîtresse à descendre. « Apportez une chaise, Simon. Eh bien, vous ne vous en êtes pas trouvé plus mal, n'est-ce pas, ma'am? Je suis sûr que vous vous sentez mieux dans votre assiette que si vous étiez resté à la maison. Oh, miséricorde, que vous avez froid! Bonté divine, monsieur, mais c'est un vrai glaçon !»« Je n'y peux rien, ma bonne fille. Vous feriez mieux de l'emmener se chauffer, » dit le serrurier.
« Monsieur, on parle bien à son aise, ma'am, » dit Miggs d'un ton compatissant, « mais au fond, je suis sûr qu'il n'est pas si insensible qu'il le paraît. Après ce qu'il a vu de vous aujourd'hui, je croirais toujours qu'il a des sentiments plus affectueux dans le cœur que sur les lèvres. Entrez, venez vous asseoir auprès du feu. Je vous en ai fait un qui est si bon. Venez. »
Madame Varden agréa le conseil et entra. Le serrurier la suivit, les mains dans les poches, et M. Tappertit fit rouler la carriole vers une remise voisine. « Ma chère Marthe, dit le serrurier lorsqu'on fut arrivé à la salle à manger, si vous vous occupiez vous-même de Dolly, ou si vous laissiez les autres s'en occuper, peut-être ce tendre soin serait-il plus raisonnable. Elle a eu peur, voyez-vous, et elle n'est pas du tout bien ce soir. » En effet, Dolly s'était jetée sur le sofa, sans faire attention à toutes les belles petites choses qui, le matin, lui avaient donné tant d'orgueil, et la figure ensevelie dans ses mains, elle pleurait beaucoup, mais beaucoup. À la première vue de ce phénomène, car les manifestations de ce genre n'étaient nullement une habitude chez Dolly, qui apprenait plutôt par l'exemple de sa mère à les éviter le plus possible, Madame Varden exprima sa conviction qu'il n'y avait jamais eu de femme aussi tourmentée qu'elle, que sa vie était une scène continuelle d'épreuves, que quand elle était disposée par hasard à se sentir un peu plus gaie, aussitôt son entourage venait, d'une manière ou d'autre, faire l'office de rabat-joie, et que, comme elle s'était donné un peu de bon temps ce jour-là, et le ciel savait si elle s'en donnait souvent, elle allait maintenant en payer la folle enchère, toute jérémiade que Miggs accueillit par un assentiment complet. La pauvre Dolly, néanmoins, ne se trouvait pas mieux d'être réconfortée de la sorte. Sa situation empirait, au contraire. Voyant donc qu'elle était réellement malade, Madame Varden et Miggs furent toutes deux prises de compassion et se mirent à la soigner sérieusement. Mais alors même, leur bonté prit la forme habituelle de leur caractère. Et quoique Dolly fût évanouie, il devint évident, pour l'intelligence la plus bornée, que c'était Madame Varden qui souffrait. De même, quand Dolly commença à se trouver mieux et passa à cette période où les matrones tiennent qu'on peut appliquer avec succès les remontrances et les raisonnements, sa mère lui représenta les larmes aux yeux que si elle avait eu de l'émoi et du chagrin ce jour-là, elle devait se rappeler que c'était le lot commun de l'humanité, et spécialement celui des femmes qui, pendant tout le cours de leur existence, ne devaient pas s'attendre à autre chose et qui n'avaient rien de mieux à faire que de supporter leur peine avec douceur et résignation. Madame Varden la supplia de se rappeler encore que l'un de ces jours, elle aurait, selon toute probabilité, à faire violence à ses sentiments au point de se marier, et que le mariage, comme elle pouvait le voir chaque jour de sa vie, et elle ne le voyait que trop, était un état qui exigeait un grand courage et une grande patience. Elle lui exposa avec de vives couleurs que si elle, Madame Varden, en se dirigeant à travers cette vallée de larmes, ne se fût pas appuyée sur de forts principes de devoir qui seuls la tenaient sur ses pieds et l'empêchaient de tomber d'épuisement, elle serait dans sa fosse depuis bien des années. Et alors, que serait devenue, je vous le demande, cette âme en peine? Elle entendait par là le serrurier, qui ne pouvait voir que par ses yeux qui avaient tant besoin d'elle, son étoile et son fanal, pour guider ses pas dans les ténèbres de la vie. Mademoiselle Miggs plaça aussi son mot à même fin. « En vérité, je vous le dis, Mademoiselle Dolly pouvait prendre exemple sur sa digne mère, car elle l'avait toujours dit et le dirait toujours, dût-elle la minute d'ensuite être pendue ou écartelée. C'était bien la femme la plus douce, la plus aimable, la plus clémente, la plus capable de souffrir longtemps qu'on pût jamais imaginer. » Elle ajouta que le simple récit de ses perfections avait opéré un changement salutaire dans l'âme de sa propre belle-sœur, qu'elle et son mari, qui vivaient avant comme chien et chat et avaient l'habitude de se lancer à la tête chandelier de cuivre, couvercle de marmite, fer à repasser et toutes les marques les plus pesantes de leurs ressentiments, était maintenant le couple le plus heureux et le plus tendre qu'il y eut au monde, ainsi qu'on pouvait le voir chaque jour en s'adressant « Cour du Lion d'or, numéro 27, seconde sonnette, au montant à droite », puis faisant un retour rapide sur elle-même, comme sur un vase, indigne de comparaison, mais qui avait bien aussi son petit mérite, elle la supplia de se bien mettre dans l'idée que sa susdite mère unique et chérie, d'une faible constitution et d'une nature excitable, avait eu constamment à supporter dans la vie domestique des afflictions auprès desquelles la ronce et voleur n'étaient rien, et que cependant, jamais, elle n'avait cédé ni à l'affaissement, ni au désespoir, ni à la colère furieuse, mais que comme on dit à la boxe, elle avait toujours pris le dessus avec une physionomie joyeuse et gagné le prix comme si de rien n'était. Quand Miggs eut fini son solo, sa maîtresse reprit sa partie et toutes deux, ensemble, se donnant le « la », exécutèrent un duo dont voici le refrain. Madame Varden était la vertu accomplie, mais persécutée. Et Monsieur Varden, représentant du sexe masculin dans cet appartement, était une créature d'habitudes vicieuses et brutales, un mari tout à fait insensible aux bénédictions conjugales dont il jouissait. Enfin, sous le masque de la sympathie, elles déployèrent contre lui une tactique si habile et si raffinée que quand Dolly, remise de sa défaillance, embrassa son père avec tendresse, comme pour rendre témoignage à sa bonté, Madame Varden exprima le solennel espoir que cela lui servirait de leçon pour le reste de sa vie et qu'il rendrait toujours dorénavant un peu plus de justice au mérite des femmes, désir que Mademoiselle Miggs, par des reniflements et des quintes de toux alternatifs, plus éloquents que le plus long discours, témoigna partager entièrement. Mais la grande joie du cœur de Miggs fut que non seulement elle recueillit tous les détails de ce qui était arrivé, mais qu'elle eut le suprême délice de les communiquer à M. Tappertit pour mettre sa jalousie à la torture. Car ce gentleman, vu l'indisposition de Dolly, avait été prié de souper dans la boutique et son repas lui avait été apporté là par les belles mains de Mademoiselle Miggs en personne. « Oh, Simone, dit la jeune demoiselle, les étranges choses qui se sont passées aujourd'hui. Oh, miséricorde, Simone !» Monsieur Tappertit, qui n'était pas de très bonne humeur et à qui Mademoiselle Miggs déplaisait, surtout quand elle plaçait sa main sur son cœur tout haletant parce que son manque de contour n'était jamais plus apparent, lui lança une œillade du style le plus superbe et ne désira pas montrer la moindre curiosité. « Je n'ai jamais vu pareille chose, ni qui que ce soit non plus, » poursuivit Miggs. « S'occuper d'elle, en voilà une idée. Faire attention à elle, comme si ce n'était pas perdre son temps. Quelle plaisanterie !» Voyant qu'il s'agissait d'une dame, M. Tappertit invita d'une façon hautaine la belle amie à être plus explicite et à lui apprendre ce qu'elle entendait par « elle ».« Eh mais, cette Dolly !» dit Miggs, en donnant à ce nom un accent oratoire des plus aigus. « Mais ma parole d'honneur, Joseph Willett est un brave jeune homme et il la mérite, ça c'est positif. »« Femme, » dit M. Tappertit en sautant à bas du comptoir où il était assis, « prenez garde. »« Ciel, Simon, » cria Miggs avec un étonnement affecté, « vous m'effrayez à mourir, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il est des cordes dans le cœur humain, » dit M. Tappertit en brandissant en l'air le couteau qui lui servait à couper son pain et son fromage, « qu'il vaut mieux ne pas faire vibrer. » Voilà ce qu'il y a. Oh, très bien, si vous êtes en colère, dit Miggs, lui tournant le dos comme pour s'en aller. En colère ou pas en colère, dit M. Tappertit, la retenant par le poignet, qu'entendez-vous par là, Jézabel ? Qu'alliez-vous me dire ? Répondez-moi ! Nonobstant cette incivile exhortation, Miggs fit volontiers ce dont elle était requise et lui raconta comme quoi leur jeune maîtresse, étant seule dans les prairies passée la brune, avait été attaquée par 3 ou 4 hommes de grande taille qui l'auraient enlevée et peut-être assassinée si Joseph Willett n'était survenu à temps, ne les avait mis de sa seule main tous en fuite et ne l'avait délivrée, ce qui le rendait l'objet de la durable admiration de ses semblables en général et de l'éternel amour de la reconnaissante Dolly Varden. Ah, « Très bien, » dit M. Tappertit en respirant fortement lorsque l'histoire eut été achevée et rebroussant ses cheveux jusqu'à ce qu'ils se tinssent roides et droits sur le haut de sa tête. « Ces jours sont comptés. »« Oh, Simon, je vous le répète, » dit l'apprenti, « ces jours sont comptés. Laissez-moi, allez-vous-en. » Miggs partit sur son ordre, mais peut-être moins par docilité que par envie d'aller glousser de rire toute seule à son aise. Lorsqu'elle eut donné carrière à sa gaieté, elle retourna dans la salle à manger où le serrurier, stimulé par le bonheur de se sentir enfin tranquille et par Toby, était devenu causeur et semblait disposé à passer gaiement en revue les incidents de sa journée. Mais Madame Varden, dont la religion pratique, chose assez commune, était volontiers de l'ordre rétrospectif, coupa court à ses causeries en déclamant contre les péchés qu'entraînent des régalades comme celle d'aujourd'hui et en soutenant qu'il était grandement l'heure d'aller au lit. Elle alla donc au lit,
avec une physionomie aussi farouche et aussi lugubre que celle du lit d'apparat de l'arbre de mai, et le reste de l'établissement alla également au lit bientôt après la maîtresse.